Chapitre 19. L'énigme posée par le passage secret d'Alfred Minguier tourne à l'obsession. Vincent n'arrête pas d'y réfléchir. Dès qu'il a un instant de libre, il s'évertue à projeter chaque mécanisme qu'il connaît, chaque subterfuge qui aurait pu être utilisé. Lorsque l'industriel a proposé des dates pour continuer ses recherches sur le site, il a sauté sur la première. Il était impatient de retourner se confronter à ce mystère, non pour essayer de triompher de l'esprit des inventeurs du passage, mais pour apprendre de leur savoir-faire. Il lui est déjà arrivé d'avoir à débusquer des caches. Clément, son ami d'enfance, qui travaille comme inspecteur pour la police spéciale, lui a même demandé une fois d'expertiser une maison dont un anarchiste recherché avait inexplicablement réussi à s'enfuir. Vincent n'avait pas mis longtemps à découvrir le réduit habilement dissimulé derrière une double paroi dans la chambre. L'homme n'avait pas fui. Il s'était contenté de se cacher en attendant que les agents s'en aillent. Après qu'ils avaient déserté les lieux, il était parti tranquillement en se payant le luxe de déménager toutes ses affaires sans être inquiété. La cave de M. Minguier pose un problème d'une toute autre nature. Vincent n'a désormais plus de doute sur l'existence d'une ouverture secrète, car il a lu de ses propres yeux les annotations des anciens propriétaires mentionnant sans équivoque sa présence. Minguier a cependant pris soin d'éviter qu'il ne puisse en lire trop, et Vincent n'a rien appris sur ce qui pouvait se trouver dans l'au-delà. L'homme d'affaires est une fois encore resté évasif, arguant poliment que cet aspect ne le concernait pas. Ce soir, pour réduire le champ de son incompréhension, Vincent est décidé à faire preuve de méthode. Alors que Minguier allume les lampes dans la salle du mur, il revient vers les pièces qu'ils ont toujours traversées rapidement. Trop, peut-être.
Que faites-vous? Vous repartez déjà?
Non, rassurez-vous. Je commence simplement par le début. Vous permettez que je vous emprunte une lanterne? Minguier le regarde faire, dubitatif. Son spécialiste retourne se positionner au bas de l'escalier qui les a conduits au sous-sol. Il en analyse même les marches et les parois. Vincent étudie systématiquement ce qui l'entoure. Minguier s'empare d'une autre lanterne et le rejoint.
Laissez-moi vous éclairer.
Merci, davantage de lumière n'est pas de refus dans un cas comme celui-ci. Il se faufile derrière les caisses, saute sur les tonneaux vides pour regarder en hauteur, puis les déplace. Il inspecte la moindre anfractuosité des murs de pierre, s'intéresse à chaque bloc qui pourrait sembler suspect. Le petit homme le suit pas à pas. Alors qu'il commence à fouiller le bric-à-brac entassé dans la seconde salle, Vincent commente. Je comprends que vous ne souhaitiez pas me divulguer ce qui peut se trouver derrière votre mur, pour la bonne raison que je n'en sais rien de précis. Mais avez-vous au moins des précisions sur ceux qui ont aménagé ce passage? Apprendre qui ils étaient me permettrait d'en déduire leur cheminement d'implantation.
Leur cheminement d'implantation?
Au fil des siècles, partout dans Paris, beaucoup de gens ont imaginé des moyens de cacher leurs biens ou leurs desseins. Mais tous ne le font pas de la même façon. Brigands, religieux, mystiques ou simples commerçants ont chacun une approche particulière qui découle de leur mentalité et de leur milieu.
Que voulez-vous dire?
Chacun de ces groupes possède ses valeurs, sa culture et sa propre méthode pour protéger ce qu'il estime précieux. Sans s'interrompre, il s'arc-boute pour décaler un vieux buffet aux portes disloquées. Par exemple, les brigands multiplient les pièges, souvent mortels, ce qui implique qu'ouvrir un de leurs accès n'est pas synonyme de victoire. Le danger persiste par la suite, partout, en embuscade, car ils multiplient chausse-trappes et autres machines à tuer, y compris dans le contenu même de leurs trésors. Leurs passages sont tout en résistance et en promesses de violence. Entrer n'est que le début de l'épreuve. Ressortir vivant s'avère souvent bien plus compliqué.
Le buffet ne dissimulait rien. Vincent secoue la tête et continue ses investigations tout en ajoutant.
Les religieux, les ordres monastiques ou de chevalerie sont sans doute les plus sobres dans leur réalisation. Les meilleurs aussi.
Ce sont eux qui ont posé les bases de l'art du passage secret. Les prêtres égyptiens ont été les précurseurs, et depuis, quel que soit le siècle ou la civilisation, tous ont apporté leur contribution. Les passages de ces communautés associent souvent une véritable épure de fonctionnement à une excellente idée de départ. La simplicité apparente de leur création n'a d'égal que la finesse experte de leur conception. La qualité du lieu choisi pour dissimuler leur trésor est primordiale. Celui-ci se situe souvent au cœur de leurs propres institutions. Ils ne faisaient preuve d'aucune perfidie, mais la cruauté ne les effrayait pas. Vous avez parlé des mystiques. Ils constituent une importante communauté dans l'univers des passages dérobés. L'occulte est lié au secret et les souterrains ou doubles murs sont le prolongement logique de leur esprit. Il en va de leur lieu comme de leurs mots. Ils revêtent parfois un sens au-delà des apparences. Seuls les initiés peuvent en franchir le seuil. Leurs installations s'avèrent redoutables pour ceux qui n'y sont pas invités. Ils n'hésitent pas à placer poisons et substances chimiques aux réactions imprévisibles, aussi bien sur les mécanismes d'ouverture que sur les objets de convoitise eux-mêmes. C'est à cause d'eux que mon maître m'a conseillé d'avoir en permanence un gant sur moi, car poser la main sur ce qu'il voulait se réserver peut conduire à la mort, générant légendes et malédictions bien plus efficaces pour repousser les curieux que n'importe quel artifice de camouflage. Vous avez beaucoup étudié. J'ai eu la chance d'avoir un excellent guide, qui avait lui-même été formé par un génie de l'illusion, l'un des plus grands que la Terre ait porté. Avec cet homme, pour qui j'ai travaillé par la suite, j'ai eu le privilège de découvrir les secrets de quelques passages. Selon votre expertise, qui aurait pu avoir des raisons d'œuvrer ici? Il conviendrait d'étudier l'histoire de la maison depuis sa construction. Je ne pense pas qu'il puisse s'agir de brigands. S'ils accomplissaient leur forfait au centre de la capitale, ils préféraient s'en éloigner pour établir leurs repères. À ma connaissance, ni religieux ni chevaliers n'ont possédé ce quartier, peut-être des mystiques. En manipulant les divers objets abandonnés dans les caves, Vincent soulève des nuages de poussière et fait fuir les araignées. Tout à coup, derrière une pile de vieux paniers d'osier craquant, il aperçoit un anneau scellé dans le mur. Voilà qui est intéressant. Qu'avez-vous trouvé ? S'enquiert avidement Minguier. Sans se soucier de salir ses beaux habits, l'industriel se glisse dans le fatras pour le rejoindre. Vincent étudie l'anneau rouillé avec précaution, d'abord sans le toucher. Il en respire le métal. Il tire de sa poche un gant en coton blanc et l'enfile avant de le saisir fermement. « Vous pensez qu'il peut être empoisonné ?» demande Minguier, penché sur son épaule. « J'ai entendu des histoires étonnantes. » Vincent tente d'abord de tirer dessus, mais cela ne donne rien. Il essaie alors de le tourner à la façon d'une clé, sans plus d'effet. Il combine ensuite différents mouvements, puis se relève pour vérifier si cela a pu avoir une conséquence dans la salle voisine. Rien n'a bougé.
« Que croyez-vous que ce soit ?»
interroge Minguier, tout excité. « Un simple anneau, monsieur. Rien de plus. Il nous faut chercher encore. » Chapitre 20. Cette fois, Vincent est venu seul. Il n'en a parlé à personne, pas même à Conrad, qui lui a pourtant fait connaître l'endroit. Il y a davantage de monde aujourd'hui. Vincent pose ses 20 sous sur le comptoir du guichet et l'homme lui débite les règles sur un ton monocorde. « Si vous criez, si vous tombez du tabouret ou si vous fuyez, vous ne gagnez rien. Le patron vous observe et il est seul juge de votre bravoure. Si vous contestez, on libère le monstre et vous le regretterez. Est-ce bien clair ?» Vincent hoche la tête et prend son tour dans la file. Tous ceux qui se confrontent au Quasimodo ne s'enfuient pas en hurlant. Certains s'évanouissent et tombent à la renverse. Ceux-là sont traînés dehors où l'air frais est le seul à prendre soin d'eux. D'autres jurent dans des patois ou des langues étrangères. Il y a même un livreur qui a gémi comme un animal blessé avant de sortir en pleurant. Sur la dizaine de candidats à la rencontre, un seul en est sorti victorieux. Un petit homme, tout sec, portant un costume qui avait dû vêtir son père avant lui, tant il était usé. Il n'a pas fait le fanfaron. Son visage n'a rien exprimé, ni devant la créature, ni après. Il a empoché son gain, sans prononcer une parole avant de disparaître. Vincent se demande ce qui pousse chacun à venir tester sa résistance face à cette exception malheureuse de la nature. L'appât du gain? La recherche d'un frisson? La volonté de se prouver quelque chose? Et lui? Pourquoi est-il revenu dès qu'il en a eu l'occasion? Pourquoi ce regard lui a-t-il fait tant d'effet? Vient-il comme on s'offre à un vertige qui peut vous engloutir? Éprouve-t-il une sorte de fascination du vide? Est-ce le désir d'explorer la faille que cette rencontre semble avoir ouverte en lui? À moins qu'il ne s'agisse d'une reconnaissance viscérale, celle d'un sentiment aussi pur qu'il est sombre, capable de naître uniquement d'un corps atrocement contrefait ou d'une vie trop lourde pour celui qui la porte. Son tour arrive. Vincent pénètre dans le vestibule et s'assoit. Il ne pense ni à coller ses pieds, ni à caler ses mains. Il ne redoute pas cette rencontre. Il la souhaite. Ce n'est pas tant une confrontation à un monstre qu'un face-à-face avec lui-même. Le rideau s'écarte. Le torse habillé de haillons surgit, portant le terrifiant visage dont l'éclairage de biais fait toujours autant ressortir les bosses. Les traits paraissent encore plus dissonants que la première fois. Épouvantable serait le mot approprié s'il n'y avait ce regard dans lequel Vincent plonge encore une fois. Le monstre grogne, mais cela ne l'effraie pas. Il a presque l'impression que la créature s'adresse à lui, une bête acculée qui se fierait à son instinct pour quémander un ultime secours. Vincent est-il le seul à l'entendre? Comment les autres peuvent-ils y percevoir la moindre menace? À moins qu'il ne fasse que projeter ce qu'il éprouve sur un râle fait pour épouvanter les visiteurs. Vincent hésite à tendre la main, mais tout va si vite.
« Félicitations, vous avez triomphé face au monstre. Encore un gagnant ce matin. Si ça continue, on va mettre la clé sous la porte. Achille, donne 40 sous au beau brun tête nue. Au suivant !»
Vincent ramasse son gain, non sans mauvaise conscience. Non, il n'a pas triomphé face au monstre. C'est même tout le contraire.